Glissant sur le sol plus qu'elle marchait, Alviarine arpentait les couloirs d'un niveau inférieur de la tour avec sur le visage la façade de sérénité qu'elle maintenait envers et contre tout. Malgré les lampes à déflecteurs, la nuit semblait s'accrocher au mur, et des ombres spectrales dansaient un étrange ballet là où il n'aurait pas dû y en avoir. L'imagination d'Alviarine? Sans doute. Sauf que ces fantômes évoluaient à la limite de son champ de vision, comme l'auraient fait de vraies apparitions. Alors que le second service du dîner venait à peine de se terminer, les corridors étaient quasiment déserts. Par les temps qui couraient, beaucoup de sœurs préféraient se faire apporter les repas dans leur chambre. Les plus dures à cuire s'aventuraient encore parfois jusqu'au réfectoire, et une minorité d'irréductibles le fréquentait encore régulièrement. Quoi qu'il en soit, Alviarine n'aurait pas permis que des Aes Sedai la voient presser le pas en rasant les murs. Pas question qu'elle la croie réduite à rôder furtivement dans la tour. De toute façon, elle détestait que quiconque la regarde. Mais là, extérieurement très calme, elle bouillonnait à l'intérieur. Soudain, elle s'avisa qu'elle touchait sans cesse le point sur son front où Shaidar Aran l'avait marqué. En d'autres termes, l'endroit où le grand seigneur en personne avait indiqué qu'elle lui appartenait. À cette idée, Alviarine faillit basculer dans l'hystérie, mais elle parvint à se maîtriser au prix d'un effort surhumain. Pour s'occuper les mains, elle souleva l'ourlet de sa robe blanche, histoire qu'il ne traîne pas par terre. Le grand seigneur l'avait marqué. Normalement, il aurait mieux valu ne pas y penser. Mais comment faire autrement, le grand seigneur? Oui, extérieurement, Alviarine était un parangon d'équanimité. À l'intérieur, elle éprouvait un mélange de mortification, de haine et de terreur. Cela dit, seule son apparence importait. De plus, une lueur d'espoir brillait dans l'obscurité. Quand même, il fallait en tenir compte. Une sorte d'espoir plutôt étrange, on devait l'avouer, mais au bord d'un gouffre, on se raccrochait à n'importe quoi. S'arrêtant devant une tapisserie où une femme couronnée se prosternait devant une chaire d'Amirline de jadis, Alviarine fit mine de la contempler. En douce, elle en profita pour sonder les deux côtés du couloir. À part elle, il n'y avait pas plus de mouvement que dans un tombeau. Glissant une main derrière la tapisserie, elle en tira un message plié et reprit aussitôt son chemin. Un miracle que ce billet soit arrivé si vite. Pour l'heure, il semblait lui brûler la peau. Mais elle ne pouvait pas le déplier et le lire ici. D'un pas toujours mesuré, elle monta à contre-cœur jusqu'au quartier de l'Âge à Blanc. Toujours avec sa façade de calme, mais de plus en plus dévastée à l'intérieur. Le grand seigneur l'avait marqué, et d'autres sœurs poseraient tôt ou tard les yeux sur elle. Déjà le plus petit de tous, l'Aja Blanc avait un peu plus de 20 Aes Sedai présentes à la tour. Mais toutes semblaient avoir décidé de sortir en même temps. Pour Alviarine, le simple fait de traverser le hall d'entrée aux dalles blanches revint à relever un défi. Malgré l'heure tardive, Céane et Ferran allaient sortir des quartiers blancs. Drapée de son châle comme sa compagne, Céane eut un sourire plein de commisération pour la gardienne déchue. Bien entendu, ça donna à Alviarine l'envie de tuer cette représentante qui fourrait toujours son nez là où elle n'aurait pas dû. Ferran fut plus direct, foudroyant Alviarine du regard avec une intensité qu'aucune Aes Sedai n'aurait dû se permettre. L'ancienne gardienne se força à ignorer la femme à la peau cuivrée, pas trop ostensiblement pour ne pas s'attirer d'ennui. Petite et trapue, le visage rond et le nez éternellement taché d'encre, Ferran était aussi loin que possible de l'idée qu'on se faisait d'une domanie. Cela dit, la première penseuse de l'Âge à Blanc avait bien le caractère incandescent de ces femmes. Sans pitié, elle distribuait les pénitences pour des pécadilles, surtout quand il lui semblait que la coupable avait déshonoré l'Âge à Blanc ou sa propre personne. Dépouillée de son étole de gardienne des chroniques, Alviarine était désormais une honte pour son Aja. Et beaucoup de sœurs lui en voulaient à cause de la perte d'influence que ça impliquait. Depuis sa déchéance, Alviarine croulait sous le poids des regards désapprobateurs, souvent lancés par des sœurs qui lui étaient inférieures et auraient dû lui obéir au doigt et à l'œil si elle leur avait donné un ordre. Les Aes Sedai de son niveau, elles, lui battaient carrément froid. Elle continua d'avancer, très droite sous les regards culpabilisateurs, et s'efforça de ne pas accélérer le pas. Mais le rouge commençait à lui monter aux joues. Pour enrayer le phénomène, elle se concentra sur l'atmosphère apaisante des quartiers de son Aja. Le long des murs simplement blancs, des lampes très sobres éclairaient des tapisseries tout aussi humbles. Des images de monts aux pics enneigés, de forêts ombragées ou d'étendues de bambous inondées de soleil. Depuis qu'elle portait le châle, Alviarine, en temps de crise, utilisait ses représentations pour échapper à l'anxiété. Le grand seigneur l'avait marqué. Pour forcer ses mains à rester le long de ses flancs, elle serra plus fort le tissu de sa robe. Dans sa main droite, le message semblait toujours lui brûler la peau. Un pas lent et mesuré. Deux des sœurs qu'elle croisa la dédaignèrent simplement parce qu'elle ne l'avait pas vue. Aujourd'hui, Astrel et Tessane parlaient des réserves de nourriture avariées. À dire vrai, elles se disputaient, le visage de marbre mais les yeux brillants et la voix à la limite de l'hostilité. Jusqu'au fond de l'âme, c'était des suppôts de l'arithmétique. Comme si la logique, selon elle, se réduisait à des séries de chiffres, sur lesquels, soit dit en passant, elle ne parvenait pas à se mettre d'accord.
« Selon les critères de déviation de Radun,
grogna Astrel,
la prévalence est 11 fois trop élevée. En d'autres termes, ça indique une intervention des ténèbres. »
Secouant la tête, ce qui fit intinabuler les perles de ses tresses, Tessa ne s'en laissa pas compter.
« Pour les ténèbres, je veux bien, mais les critères de Radun, c'est de la préhistoire. Pour être rigoureuse, il faut appliquer la première loi des médianes de Kovanen et faire la distinction entre les vivres pourris et les vivres en train de pourrir. Sinon, la modélisation est biaisée. Les réponses exactes, comme je te l'ai déjà dit, sont 13 fois dans le premier cas et 9 dans le deuxième. Je n'ai pas encore intégré la farine, les haricots et les lentilles, mais intuitivement, il semble évident que... »
Astrel bomba le torse. Comme elle était plutôt en chair et dotée d'une opulente poitrine, le résultat fut des plus impressionnants.
« La première loi de Kovanen ?»
s'étrangla-t'elle.
« Jusque-là, on n'a pas démontré son exactitude. Quand on est sérieux, on se fie à des méthodes reconnues et prouvées, et on ne procède pas au doigt mouillé. »
En s'éloignant, Alviarine faillit sourire. Ainsi, quelqu'un s'était enfin aperçu que le grand seigneur avait mis la main sur la tour blanche. Mais le savoir n'empêcherait rien. Soudain consciente qu'elle souriait peut-être pour de bon, la gardienne déchue se ressaisit lorsqu'elle entendit une voix.
« Ramez ça !»
déclara Norine.
« Si tu recevais la badine ou le fouet tous les matins avant le petit déjeuner, tu tirerais la tête aussi !»
Une déclaration bien trop tonitruante pour les oreilles d'Alviarine. Grande et mince, des clochettes d'argent accrochées aux manches de sa robe blanche brodée, Ramessa parut interloquée d'être interpellée ainsi. Très probablement, c'était sincère. De notoriété publique, Norine avait très peu d'amis, voire aucune. Avec un regard en biais pour Alviarine, histoire de s'assurer qu'elle entendait, elle continua.
Qualifier une pénitence de privée et faire comme si de rien n'était est irrationnel. Surtout quand la sentence vient directement de la chair de Myrline. Mais la rationalité de cette femme a toujours été surcotée, si tu veux mon avis.
Par bonheur, Alviarine n'était plus très loin de ses appartements. Une fois entrée, elle ferma la porte puis la verrouilla. Personne ne risquait de la déranger, certes, mais pourquoi prendre des risques inutiles? Par une soirée de printemps plutôt fraîche, des flammes crépitaient dans la cheminée et toutes les lampes étaient allumées. Au moins, les servantes faisaient toujours leur travail. Mais elles aussi, elles étaient au courant. Des larmes d'humiliation ruisselèrent sur les joues d'Alviarine. Comme elle aurait voulu tuer Sylviana. Mais à quoi bon? Une nouvelle maîtresse des novices l'aurait torturée chaque matin, et ce jusqu'à ce que le courroux d'Elaïda s'apaise. S'il s'apaisait un jour, ce qui semblait peu probable. Du coup, la personne à tuer, c'était cette maudite chair d'Amirline. Mais en matière de meurtre majeur, on devait se montrer parcimonieux. Trop de morts à la suite soulèveraient des questions potentiellement dangereuses. Cela dit, Alviarine avait fait tout son possible contre Elaïda. Les nouvelles de la fameuse bataille envoyée par Catherine circulaient déjà dans tout l'Aja Noir et même au-delà. Des sœurs qui n'appartenaient pas à l'Aja secret parlaient en détail du désastre des puits de Doumaï. Et si le récit devenait de plus en plus dramatique chaque fois, il ne fallait surtout pas s'en plaindre. Bientôt, ce serait du fiasco de la Tour Noire qu'on ferait des gorges chaudes dans les couloirs de la Blanche. Hélas, depuis l'arrivée des renégates, rien de tout cela ne suffirait pour que Laïda soit renversée puis bannie. Mais la menace qui pesait en permanence sur sa tête, deux catastrophes ça faisait beaucoup, l'empêcherait de saboter l'œuvre d'Alviarine. Ne lui avait-on pas ordonné de briser la Tour Blanche de l'intérieur? Eh bien, elle l'avait fait, semant partout la zizanie et le chaos. Au début, une part d'elle-même avait souffert de devoir exécuter un tel ordre. En un sens, ça la peinait toujours, mais sa loyauté allait d'abord au grand seigneur. Alors qu'Elaïda avait porté le premier coup à la tour, la gardienne déchue en avait démoli une bonne moitié. De nouveau, elle s'aperçut qu'elle touchait la marque sur son front. Rageuse, elle s'obligea à baisser la main. Sur sa peau, il n'y avait rien à voir ni à sentir du bout d'un doigt. Chaque fois qu'elle se regardait dans un miroir, elle vérifiait malgré elle. Pourtant, trop souvent, elle aurait juré que les sœurs fixaient son front et voyaient quelque chose qui lui échappait. C'était impossible, de la pure démence. Pourtant, cette idée revenait la hanter, quoi qu'elle fasse pour s'en débarrasser. Après avoir essuyé ses larmes avec la main qui tenait le message récupéré derrière la tapisserie, elle sortit de sa bourse les deux autres qu'elle avait collectées, puis approcha de la table de travail collée contre un mur. Une table très ordinaire, comme tous les meubles d'Alviarine, si mal assortie qu'il devait venir d'une pléthore d'ébénistes différents. Quelle importance, tant qu'il rendait le service qu'on attendait d'eux. Après avoir laissé les trois messages sur la table, près d'une coupe en cuivre martelé, Alviarine sortit une clé de sa poche, ouvrit le coffre de bois renforcé de bandes de cuivre posées sur le sol et examina les livres qu'il contenait, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé les trois qu'elle cherchait. Si quelqu'un d'autre les ouvrait, les pages s'effaceraient en un clin d'œil. Pour qu'on puisse les mémoriser, il existait bien trop de codes. Du coup, perdre ces volumes aurait été une dure épreuve, car les remplacer n'aurait pas été facile, d'où le coffre et sa serrure. Sans perdre de temps, Alviarine retira les fines bandes qui enveloppaient le message trouvé derrière la tapisserie. Les passant sur la flamme d'une lampe, elle les laissa tomber dans la coupe où elles se consumèrent. C'était seulement des consignes sur les endroits où déposer le message, une pour chaque porteuse, plus des leurres destinées à cacher le nombre d'étapes que franchirait la missive avant d'atteindre sa destinataire. Prendre trop de précautions, c'était tout simplement impossible. Même les autres membres du cœur d'Alviarine ne se fiaient pas à elle, et elle le leur rendait bien. Au sein du Conseil suprême, trois femmes seulement connaissaient son identité, et elle aurait aimé qu'il n'y en ait aucune, si ça n'avait pas été impossible. Être trop prudente, ça n'existait pas, surtout en un moment pareil. Une fois transcrit sur une autre feuille et décodé, le message correspondait à ce qu'elle attendait depuis la veille au soir, quand Talen ne s'était pas présenté à la convocation. Tôt ce jour-là, la femme avait quitté les quartiers des Sœurs Vertes avec un petit coffre et des sacoches de sel bourrées jusqu'à la gueule. Sans recourir à un domestique, elle s'était chargée elle-même de porter ses bagages. Comme on pouvait s'y attendre, nul ne savait où elle était partie. Avait-elle paniqué en recevant une convocation du Conseil suprême? Ou y avait-il plus que ça? Il y avait plus que ça, décida Alviarine. Talen avait regardé Yukiri et Doessine comme si elle cherchait à être guidée, ou quelque chose de ce genre. Alviarine ne pouvait pas avoir imaginé ça. Vraiment? C'était ça, la lueur d'espoir. Il devait y avoir plus qu'une simple panique. Il fallait qu'une menace pèse sur les sœurs noires, sinon le grand seigneur lui retirerait sa protection. Furieuse, elle éloigna sa main de son front. Pas un instant, elle ne songea à utiliser le petit terangréal, soigneusement caché, qui lui servait à appeler Messahana. Tout d'abord, mais ce n'était pas rien, parce que cette femme prévoyait de la tuer. Et ce, malgré la protection du grand seigneur. Si elle perdait cette protection, l'élu passerait à l'action la seconde d'après. Tout ça parce que Alviarine avait vu le visage de Messahana et n'ignorait rien de son humiliation. Aucune femme n'aurait laissé passer ça, et moins encore une rejetée. Chaque nuit, Alviarine rêvait qu'elle exécutait Messahana. Le jour, quand son esprit vagabondait, elle songeait à la meilleure manière de réaliser ce projet. Mais elle devrait attendre de pouvoir démasquer cette femme sans qu'elle s'en aperçoive. Jusque-là, il lui faudrait plus d'arguments, car il était peu probable que Messahana et même Shaidar Aran tiennent Talen pour la preuve de quelque menace que ce soit. Par le passé, même si c'était rare, des sœurs s'étaient déjà enfuies après avoir paniqué. Supposer que la rejetée et le grand seigneur puissent l'ignorer était hautement dangereux. L'un après l'autre, Alviarine embrasa le message original et sa transcription, puis elle les laissa brûler eux aussi dans la coupe. Quand ce fut fait, elle saisit la pierre noire et lisse qui lui servait de presse-papier, écrasa les cendres, puis les remua longuement. Aucun pouvoir n'était en mesure de reconstituer des mots à partir de cendres, mais là encore, on ne se montrait jamais trop prudente. Toujours debout, la gardienne déchue décoda les deux autres messages. Yukiri et Doessine, apprit-elle, dormaient toutes les deux dans des chambres protégées contre les intrusions. Rien de surprenant. Ces derniers temps, aucune sœur, ou presque, ne se retirait pour la nuit dans une pièce sans protection. Mais enlever ces femmes dans de telles conditions serait difficile. Les opérations de ce genre étaient toujours plus simples lorsque des sœurs du même âge que la victime les réalisaient aux heures les plus sombres de la nuit. En outre, il se pouvait que ces échanges de regards entre Talen et les deux sœurs aient été purement fortuits, ou même imaginaires. Cette éventualité ne pouvait pas être négligée. Avec un soupir, Alviarine prit d'autres petits livres dans son coffre, puis, très précautionneusement, s'assit sur le coussin en plume d'oie de sa chaise. Malgré sa délicatesse, elle fit la grimace quand elle fut en place, et dut même étouffer un gémissement. Au début, elle était persuadée que les coups de Sylviana seraient plus humiliants que douloureux. Mais au fil des jours, la souffrance s'installait et ne cessait plus vraiment. Ses fesses étaient en charpie. Et le lendemain matin, la maîtresse des novices s'acharnerait encore dessus. Même chose le surlendemain, puis le jour d'après. Était-ce ça son avenir? Une éternité à hurler sous les coups de Sylviana, puis à lutter contre elle-même pour soutenir le regard des sœurs qui savaient ce qu'elles subissaient dans le bureau de la tortionnaire? Tentant de bannir cette pensée de son esprit, Alverine trempa une plume à pointe d'acier dans son encrier et commença à rédiger des ordres codés. Talène devait être retrouvée et capturée, bien entendu, pour jugement et exécution si elle avait simplement paniqué. En revanche, si elle avait trouvé un moyen de renier ses serments, songeant à cette lueur d'espoir, la gardienne déchue ordonna qu'on surveille de près Yukiri et Doessin. Impérativement, il fallait les capturer. Même si les regards étaient imaginaires ou n'avaient rien à voir avec la jeune noire, on pourrait toujours tirer quelque chose des informations qu'on arracherait à ses sœurs. Alviarine contrôlerait la circulation des flux dans le cercle. Oui, ça serait sûrement fructueux. Tout à sa rédaction, elle ne s'aperçut pas que sa main libre, comme aimantée, volait vers son front en quête de la marque invisible. Au-dessus de l'immense camp des Chaïdo, le soleil de l'après-midi filtrait de la frondaison des grands arbres alignés en rang serré sur la butte où se tenait Galina. Sur les branches, des oiseaux chanteurs lançaient leurs trilles, tandis que des cardinaux et des geais bleus fendaient l'air comme des éclairs miniatures. Le matin, il avait plu à verse, et l'air restait agréablement frais sous un ciel où dérivaient désormais des nuages blancs épars. Galina sourit. L'encolure élégante et la démarche dynamique, sa jument grise avait sans doute appartenu à une noble dame ou, au moins, à une riche négociante. Sinon, à part une sœur, aucune femme n'aurait pu s'offrir un si bel animal. Galina adorait les chevauchées qu'elle s'offrait sur l'équidée baptisée Rapide par ses soins, parce qu'un jour, rapidement, il la porterait jusqu'à la liberté. Dans le même ordre d'idées, elle appréciait les moments de solitude où elle pouvait penser à ce qu'elle ferait une fois libre. Parmi ses projets, plusieurs visaient à châtier toutes les femmes qui l'avaient trahie, en commençant par Elaïda. Peaufiner ses plans et imaginer leurs fruits était un grand moment de joie. Oui, Galina aimait ses longues promenades solitaires, mais jusqu'à un certain point. Parce que ce privilège, quand on creusait bien, indiquait combien elle appartenait à Tevara, au même titre que sa robe de soie, sa ceinture incrustée de pierres précieuses et son collier. Le sourire vira à la grimace. Les privilèges et les ornements étaient un hochet pour un gentil toutou autorisé à s'amuser quand il n'était pas en train de divertir son maître. Des ornements, d'ailleurs, dont elle ne pouvait pas se défaire, même à l'extérieur du camp, parce qu'on risquerait toujours de la voir. Si elle s'éclipsait, c'était pour échapper aux aïels, mais rien n'interdisait d'en rencontrer dans la forêt. Et si Tevara apprenait qu'elle se permettait des transgressions, si difficile que ce fût à admettre, Galina crevait de peur face à la matriarche aux yeux de faucon. Tevara hantait ses nuits, désormais peuplées de cauchemars. Fréquemment, elle se réveillait en larmes et lustrée de sueur. Qu'elle se rendorme ou pas, cependant, échapper à ses ignobles songes était toujours un immense soulagement. Il n'y avait jamais eu d'ordre lui interdisant de s'évader pendant les promenades, une consigne qu'elle aurait été obligée de respecter, bien entendu. Une raison de plus pour mijoter dans l'amertume. Tevara savait que sa prisonnière reviendrait en dépit de tous les mauvais traitements qu'elle subissait, parce qu'elle gardait l'espoir qu'un jour la matriarche la libérerait du maudit serment d'obéissance. Si ça arrivait, Galina serait de nouveau en mesure de canaliser à volonté, et non sur commande. Très rarement, Sevana la contraignait à utiliser le pouvoir pour des tâches subalternes, une façon d'asseoir son emprise sur une Aes Sedai, sans doute. C'était si peu fréquent que Galina guettait avec impatience ses occasions de s'unir aux Saïdars. Tevara, elle, lui refusait de simplement toucher la source. Quand Galina l'implorait, s'abaissant toujours plus, il lui arrivait de céder, mais en interdisant à sa captive de tisser ne serait-ce qu'un fil de pouvoir. Pour ses miettes de plénitude, Galina s'était bel et bien humiliée, ne reculant devant aucune vilenie. S'avisant qu'elle grinçait des dents, elle se força à arrêter. Le bâton des serments, pour l'instant hors de portée de la tour, pourrait peut-être la libérer de son fardeau, comme l'aurait pu l'artefact quasiment identique de Tevara, mais ça restait sujet à caution. les deux objets n'étaient pas rigoureusement authentiques. La différence concernait les signes apposés sur les deux artefacts. Mais comment savoir si ça ne permettait pas de distinguer sur lequel on avait prêté tel ou tel serment? Faute de connaître la réponse à cette question, Galina refusait de s'enfuir sans emporter le bâton de Tevara. La hyène le laissait souvent sous sa tente, à la vue de toutes. Mais Galina, avait-elle déclaré, ne réussirait jamais à le soulever. De fait, elle pouvait toucher le bâton blanc au diamètre équivalent à celui de son poignet, et rien ne l'empêchait de passer les doigts sur sa surface dure et lisse. En revanche, impossible de refermer la main dessus. En tout cas, sans que quelqu'un lui ait tendu le bâton. Avec un peu de chance, ces transgressions mineures ne seraient pas tenues pour une tentative de s'emparer de l'artefact. Il fallait qu'il en soit ainsi, parce que s'il en allait autrement, la punition serait dévastatrice. Quand Galina regardait le bâton, l'avidité qui brillait dans ses yeux arrachait à Tevara un de ses rares sourires.
« Ma petite Lina voudrait être libérée de son serment ?»
raillait-elle.
« Pour ça, il faut qu'elle soit un très gentil caniche. Si elle veut que je la délivre un jour, elle doit me convaincre qu'elle restera mon toutou, même après avoir recouvré son libre arbitre. »
Toute une vie à être la chose de Tevara et son souffre-douleur? Un bouc émissaire sur lequel cogner chaque fois que Sevana lui marchait sur les pieds? Calvaire n'était pas un mot assez fort pour décrire un tel destin. Horreur convenait mieux, même si ça restait trop faible. En y pensant, Galina redoutait de sombrer dans la folie si ça arrivait. Mais la folie, face à un tel enfer, ne serait même pas un moyen de s'enfuir. Sa relative bonne humeur envolée, Galina mit une main en visière, puis leva les yeux pour vérifier la position du soleil. Alors que Tevara avait émis le souhait qu'elle revienne avant la nuit, il restait deux bonnes heures de jour. Pourtant, avec un soupir accablé, la sœur captive fit volter rapide et prit le chemin du camp. Les matriarches adoraient renforcer l'obéissance de leurs esclaves sans passer par des ordres directs. Ainsi, quand elles désiraient contraindre Lina à ramper, Tevara disposait d'une kyrielle de moyens. Si on ne voulait pas prendre de risques, la moindre suggestion de cette femme devait être entendue comme un ordre. Quelques minutes de retard, par exemple, impliquaient des châtiments que Galina ne pouvait pas évoquer sans frissonner. Les sangs glacés, elle talonna sa monture. Tevara n'acceptait aucune excuse. Jaillissant de derrière un arbre, Anaïel se campa sur le chemin de l'Aes Sedai. Très grand, ce guerrier en cas d'insor avait glissé ses lances dans le harnais qui tenait l'étui de son arc dans son dos. Et son voile était abaissé. Sans un mot, il saisit la bride de rapide. Un instant, Galina en resta bouche bée. Puis elle se redressa sur sa selle et rugit d'indignation.
« Imbécile ! À force, tu devrais me reconnaître ! Laisse-moi passer, sinon Sevana et Tevara t'écorcheront vif !»
En règle générale, les Aghels n'étaient pas expressifs. Pourtant, celui-là écarquilla ses yeux verts. Puis il saisit à pleine main le devant de la robe de Galina et la fit basculer de sa selle.
« Silence, Gaishain !»
lança-t-il, quand sa proie cria à plein poumon. En réalité, il semblait se moquer comme d'une guigne qu'elle obéisse ou non. Au début de sa captivité, Galina avait dû se soumettre. Trop d'Aiel s'étant aperçu qu'elle ne pouvait rien refuser, certains, par pure cruauté, la chargeaient de corvées loufoques qui l'empêchaient de répondre présent lorsque Tevara ou Sevana avaient besoin d'elle. Désormais, elle ne devait plus obéissance qu'à certaines matriarches et à Sevana. En conséquence, elle se débattit et cria avec l'espoir d'attirer l'attention d'une personne informée qu'elle appartenait à Tevara. Au moins, si on lui avait permis de porter un couteau, dans le cas présent, ça aurait été utile. Mais comment ce guerrier pouvait-il ignorer son identité? Ou au moins, ne pas reconnaître sa ceinture et son collier, dont la signification était limpide. Si grand que fût le camp, aussi peuplé de bien des grosses villes, tout le monde connaissait la Gaishain originaire des terres mouillées, dont Tevara revendiquait la propriété. Dans un avenir très proche, la matriarche ferait écorcher vif ce sale type, et Galina se jura de ne pas manquer une minute du spectacle. Très vite, il devint évident qu'un couteau n'aurait servi à rien. Malgré la fureur de Galina, son ravisseur la maintenait sans effort. Lui relevant la capuche, il tira ensuite dessus, pour qu'elle recouvre les yeux de sa proie. La prisonnière bâillonnée, il la jeta au sol, la fit rouler sur le ventre et lui saucissonna les poignets et les chevilles. Sans le moindre effort, comme s'il était en train de jouer à la poupée. Galina lutta encore, mais s'était perdue d'avance.
« Gaol, il nous a chargé de capturer un ou une Gaishain non-Aiel.
Mais tu crois qu'une femme en robe de soie, couverte de bijoux et libre de chevaucher fera l'affaire ?»
En entendant cette voix, Galina se pétrifia. Le nouveau venu n'était pas un guerrier du désert. En revanche, il avait l'accent du Murandi.
D'habitude, vous ne traitez pas ainsi les Gaïshain ?
Ces maudits Shaido !
Se contenta de lancer Layel.
Si on veut apprendre des choses utiles, il faut dénicher quelques spécimens de plus. Dans ce camp, il y a des dizaines de milliers de gens en tenue blanche, et nous ne savons pas où est Fail.
Fagur Néald, lâcha Gaul. Je parie que cette femme dira à Perrina Ibera tout ce qu'il brûle de savoir.
Galina eut l'impression de se transformer en statue de glace. Ces brutes étaient envoyés par Perrina Ibera. S'il attaquait les Shaido pour sauver sa femme, ce crétin se ferait tuer, et Galina n'aurait plus aucun moyen de pression sur Fail. Son mari mort, la jeune idiote se ficherait de son propre sort, et pour faire chanter les autres femmes, il faudrait se lever tôt, car elle n'avait aucun secret à cacher. Une nouvelle fois, Galina vit fondre comme neige au soleil ses chances de s'emparer du bâton. Elle devait arrêter Aibara. Mais comment ?
Qu'est-ce qui te fait penser ça, Gaul ?
C'est une Aes Sedai, et une amie de Sevana, dirait-on.
Tu en es sûr ?
Fit le Mourandien, pas convaincu. Bizarrement, les deux hommes ne semblaient pas troublés à l'idée de poser la main sur une Aes Sedai. Dès le début, Layel avait agi en toute connaissance de cause. Même s'il s'agissait d'un Shaido renégat, il ne pouvait pas savoir que sa victime, sans l'ordre requis, n'était pas en mesure de canaliser. À part Sevana et une poignée de matriarches, personne n'était au courant. Au fil des secondes, cette histoire devenait de plus en plus incohérente. Sans crier gare, quelqu'un souleva Galina du sol et la posa sur le ventre en travers de sa propre selle, s'avisa-t-elle. Quelques instants plus tard, elle commença à rebondir sur le cuir très dur, une main d'homme l'empêchant de glisser tandis que la jument avançait.
Fagur Néald, dit Layel. Conduis-nous jusqu'à un endroit où tu pourras faire un de tes étranges trous.
Sur l'autre versant, Gaul. Tu sais, je suis venu assez souvent ici pour pouvoir ouvrir un portail à peu près n'importe où. Les aguels sont capables de courir partout.
Un portail? Que racontait cet imbécile? Oubliant ses fadaises, Galina recensa ses potions et n'en trouva pas de bonnes. Saucissonnée comme un agneau en route pour un marché, bâillonnée de telle façon que ses cris soient des murmures, elle n'avait guère de chance de s'évader. Sauf si les sentinelles tombaient sur le patelot de ses ravisseurs. Mais avait-elle envie que ça arrive? Si elle ne rejoignait pas Aibara, comment l'empêcher de tout saboter? Cela dit, à quelle distance était le camp de Perrine? Pas très loin d'ici, sinon les Shaido l'auraient déjà repéré. Des éclaireurs, elle le savait, avaient passé la zone au peigne fin dans un rayon de 4 lieues autour du camp. Et le temps qu'il faudrait pour gagner celui de Perrine devait être doublé pour être revenu auprès de Tevara. Là, il ne s'agirait plus de minutes de retard, mais de jours. Pour ça, Tevara ne la tuerait pas, mais elle lui ferait regretter d'être encore vivante. Sauf si Galina trouvait une bonne explication. Une capture par une horde de brigands? Non, deux seulement. Imaginer qu'un duo d'intrus s'était approché du camp était déjà difficile, alors une bande. Incapable de canaliser, arguerait Galina, il lui avait fallu du temps pour fausser compagnie à ses ravisseurs. Oui, la fable pouvait être convaincante. Assez pour persuader Tevara? Peut-être en disant que... Non, c'était perdu d'avance. La première fois que Tevara l'avait punie à cause d'un retard, sa sangle de sel s'était cassée, et elle avait dû rentrer à pied, sa jument tenue par la bride. La matriarche n'avait pas retenu les circonstances atténuantes. Un enlèvement ne serait pas mieux reçu. Galina aurait eu envie de pleurer. Puis elle s'avisa que des larmes roulaient déjà sur ses joues. Quand la jument s'arrêta, Galina ne prit pas le temps de réfléchir. Se tortillant comme un ver, elle tenta de glisser de sa selle et cria aussi fort que son bâillon le lui permettait. Layel et le Mourandien essayaient sûrement d'éviter les sentinelles. Si celle-ci revenait au camp avec Galina et ses ravisseurs, Tevara lui pardonnerait peut-être son retard. Même si Fail devenait veuve, elle trouverait sûrement un moyen de la manipuler. Une gifle coupa le souffle de Galina.
« Silence !»
lui ordonna Layel. Puis la jument se remit en chemin. Galina recommença à pleurer, la soie de sa capuche très vite trempée. Pour la punir, Tevara la ferait hurler de douleur. En pleurant, elle réfléchit pourtant à ce qu'elle allait dire à Aibara. Au moins, elle préserverait ses chances de s'approprier le bâton. Mais Tevara, lui, non, non. Elle devait se concentrer sur ce qu'elle pouvait influencer. L'image de la matriarche brandissant un fouet ou une badine voire un rouleau de corde pour l'attacher sadiquement, ne quitterait pas son esprit. Mais elle pouvait en détourner les yeux et se consacrer aux questions qu'Aïbara ne manquerait pas de poser. Que devrait-elle répondre pour le convaincre de lui confier la sécurité de sa femme? Malgré toutes ces spéculations, Galina n'en revint pas quand Layel la fit glisser de sa selle et la remit debout une heure au maximum après le début de l'expédition.
« Noren, » dit le Mourandien, « décèle son cheval et attache-le avec les autres. »«
Compris, maître Néald, »
répondit une voix à l'accent kairienien. Autour des chevilles de Galina, les liens disparurent et une lame de couteau s'inséra entre ses poignets pour les libérer. Puis le bâillon lui fut retiré et elle cracha des peluches de tissu humide de salive. Un petit homme en veste noire entraînait déjà rapide entre un mélange de grandes tentes marron raccommodées et de huttes rudimentaires qui semblaient faites avec des branches, y compris des pins aux aiguilles brunâtres. Combien de temps fallait-il pour que des aiguilles changent de couleur? Des jours, à coup sûr, et plus probablement des semaines. Les quelques 60 hommes qui s'occupaient des feux de cuisson ou étaient assis sur des tabourets ressemblaient à des fermiers et en arboraient la tenue. Mais certains aiguisaient des épées, des lances ou des hallebardes, et il y avait des faisceaux d'armes presque partout où on posait les yeux. Au-delà des tentes et des huttes, des deux côtés, Galina vit d'autres hommes qui allaient et venaient. Un grand nombre, en plastron et casqué, brandissaient de très longues lances tout en se tenant bien droit sur leurs selles. Des soldats en partance pour une patrouille. Combien d'autres y en avait-il hors du champ de vision de Galina? Aucune importance. Ce qu'elle voyait était impossible. Les éclaireurs des Shaido ne seraient pas passés à côté d'un tel camp. Ça tombait sous le sens.
Si son visage de marbre n'avait pas suffi à me convaincre,
fit l'homme qui devait être Néald,
sa façon de tout observer froidement le ferait. On dirait qu'elle étudie des vers sous un rocher qu'elle vient de retourner.
Le gringalet en veste noire lissa sa moustache cirée, en s'efforçant de ne pas en déranger les pointes. S'il portait une épée, ce type n'avait rien d'un soldat, ni d'un aventurier.
Allons, suis-moi, Aes Sedai,
dit-il en prenant Galina par le bras.
Le seigneur Perrine a des questions à te poser.
Galina se dégagea, mais Néald lui reprit le bras, plus fermement cette fois.
Ne joue pas à ça avec moi!
L'aïel géant, Gaol, prit l'autre bras de Galina, qui se retrouva devant un choix très simple, marcher avec ses ravisseurs ou les forcer à la porter. La tête haute, elle opta pour la marche, feignant de prendre les deux brutes pour une escorte. Mais quiconque verrait comment il la tenait ne tomberait pas dans le panneau. Le regard rivé devant elle, Galina eut pourtant conscience que des paysans en armes, pour l'essentiel très jeunes, la suivaient des yeux. Sans paraître étonné, mais quand même un peu pensif. Comment Gaul et Néald pouvaient-ils se comporter si légèrement avec une Aes Sedai? Certaines matriarches, pas au courant qu'un serment l'entravait, allaient jusqu'à douter de l'identité de Galina. Comment une sœur pouvait-elle obéir ainsi et craindre à ce point Tevara? Mais Layel et le Mourandien, eux, savaient très bien à qui ils avaient affaire. Pourtant, ils s'en fichaient. Les paysans aussi savaient, et ils ne s'étonnaient pas du traitement qu'on réservait à une Aes Sedai. Galina en eut des frissons glacés. Quand ils furent assez près d'une grande tente rayée de rouge et de blanc, elle entendit des voix derrière le rabat ouvert.
« Assurez qu'il est prêt à venir tout de suite !»
finissait de dire un homme.
« Je ne peux pas me permettre d'avoir une bouche de plus à nourrir !»
répondit un autre.
Surtout sans savoir pour combien de temps. Par le sang et les cendres. Pour organiser une réunion avec ces gens, il faut une éternité.
Gaol dut se baisser pour entrer sous la tente. Galina, elle, avança d'un pas régalien, comme si elle pénétrait dans ses appartements à la tour. Prisonnière ou non, elle restait une Aes Sedai. Et c'était un puissant avantage. Et une arme tout aussi dévastatrice. Qui donc voulait rencontrer Perrine Aïbara? Pas Sevana, probablement. En tout cas, il fallait l'espérer. Contrairement au camp fait de briques et de brocs, la tente était un modèle d'harmonie et de rigueur. Un tapis couvrait le sol, et deux tentures brodées d'oiseaux et de fleurs, dans le style kyrienien, pendaient du toit. Galina se concentra sur un grand jeune homme aux larges épaules. En manche de chemise, il lui tournait le dos et, en appui sur les poings, sondait les cartes déroulées sur une table aux pieds sculptés, élégants et fins. À Kairienne, Galina avait à peine aperçu Perrine Aïbara. Pourtant, elle fut sûre au premier coup d'œil d'avoir devant elle le jeune campagnard venu du même village que Randall Thor. La chemise de soie et les bottes superbement cirées, jusqu'au revers, n'y changeaient rien. Sous la tente, tous les regards étaient braqués sur le jeune homme. un indice plus que concluant. Alors que Galina avançait, une grande femme en robe de soie verte à col montant, un rien de dentelle au cou et au poignet, posa une main sur l'avant-bras du jeune seigneur. Galina reconnut immédiatement cette brune à la longue crinière.
« Elle est sur ses gardes, Perrine, »
dit Berylaine.
« Pas par peur d'un piège, selon moi, » ajouta un homme grisonnant au visage dur, son plastron ornementé porté sur une veste écarlate.
Un haut gradé du Géaldan, devina Galina. Sa présence et celle de Berylaine expliquaient celle des soldats. Bien réelle, tout aussi impossible que ce fut. Galina se félicita de ne pas avoir rencontré la femme à Caerienne, car ça aurait encore compliqué la situation. Elle aurait aimé pouvoir essuyer ses vestiges de larmes, mais Gaol et Néald lui tenaient toujours fermement les bras. Sans pouvoir canaliser, elle était impuissante contre ça. Mais elle restait une Aes Sedai, et cela seul comptait. Elle devait voir les choses ainsi et s'y tenir. Bien dans son rôle, elle ouvrit la bouche pour prendre le contrôle des opérations. Comme s'il avait senti sa présence, Aibara la regarda par-dessus son épaule, et découvrir ses yeux jaunes lui coupa le souffle. Ce garçon, prétendaient certaines sœurs, avait un regard de loup, mais elle n'y avait jamais cru une seconde. Pourtant, des yeux de loup, oui, dans un visage de pierre qui n'avait plus rien de juvénile. À côté de lui, le gradé du Géaldan avait presque l'air doux. Derrière la barbe coupée court de Perrine, une grande tristesse se cachait, à cause de sa femme, sans doute. Un bon levier, ça.
Une Aes Sedai dans une tenue blanche de Geishine,
lâcha Aibara en se tournant vers sa visiteuse. Presque aussi grand que la Yel, il en imposait encore plus, son regard jaune ne ratant aucun détail.
Et prisonnière, qui plus est. Elle ne voulait pas venir?
Pendant que Gaol la ligotait, seigneur, répondit Néald. Elle gigotait comme une truite qu'on vient de jeter sur la berge. Moi, je n'ai rien eu à faire, sinon observer le spectacle.
Une étrange remarque, surtout dite sur un ton si lourd de sens. Cet avorton, qu'aurait-il pu? Soudain, Galina s'avisa de la présence d'un autre homme en veste noire. Un costaud aux traits burinés, une barrette d'argent en forme d'épée ornant son col montant. Alors, l'Aes Sedai se rappela où elle avait vu des hommes ainsi vêtus. Au puits de Doumaï, ils avaient surgi de trous béants dans l'air, juste avant qu'un triomphe espéré se transforme en désastre. Néald et ses trous, des portails en réalité. Ces hommes étaient en mesure de canaliser. Galina d'immobiliser toute sa volonté pour ne pas tenter d'échapper à la prise du Mourandien. Être si près de ce type lui retournait l'estomac, et devoir supporter qu'il la touche. Galina eut envie de gémir, une réaction qui la stupéfia. Enfin, elle était bien plus solide que ça. En s'efforçant de ramener un peu d'humidité dans sa bouche plus sèche que du vieux parchemin, elle se concentra sur le calme extérieur, sa meilleure arme en toutes circonstances.
« Elle prétend être amie avec Sevana, »
annonça Gaul.
« Une amie de Sevana, » fit Aibara, « vêtue d'une robe blanche de Geishine. Une robe en soie et avec des bijoux, mais quand même. Tu ne voulais pas venir, et tu n'as pas canalisé le pouvoir pour empêcher Gaul et Néald de t'emmener, et tu parais morte de peur. »
Aibara secoua la tête. Comment savait-il pour la peur?
Après les puits de Doumaï, je m'étonne de voir une Aes Sedai en compagnie de Shaido. Ignorerais-tu tout de cette bataille? Gaol, Néald, lâchez-la donc. Après s'être laissé amener ici, je doute qu'elle essaie de s'enfuir.
Les puits de Doumaï ne comptent pas,
fit Galina, alors que ses ravisseurs obéissaient à Aibara. Cela dit, ils restèrent sur ses flancs pour la surveiller. Et elle se félicita d'avoir pu parler d'un ton si ferme. Il y avait deux hommes capables de canaliser sous la tente, et elle était seule, sans une once de pouvoir en plus de tout. Pourtant, elle se tenait bien droite, la tête haute. Une Aes Sedai se campait face à ces monstres, et elle devait leur en imposer. Mais Aibara, comment savait-il qu'elle avait peur? Dans sa voix, ça ne s'entendait pas, et sur son visage, on ne lisait sûrement rien.
La tour blanche a des objectifs que seuls les Aes Sedai peuvent connaître ou comprendre. Je suis ici au nom de la tour, et vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Une mauvaise idée pour tout homme attaché à sa tranquillité.
L'officier du Géaldan hocha gravement la tête, comme s'il avait payé très cher cette leçon. Impassible, Aibara se contenta de dévisager Galina.
Perrine Aibara,
continua l'Aes Sedai.
Si je n'ai pas malmené ces deux-là, c'est parce que l'un d'eux a prononcé ton nom. »
Si le Mourandien ou Laiel faisait remarquer qu'un long moment s'était écoulé entre la capture et l'évocation du jeune seigneur, Galina avait une défense toute prête. Trop surprise au début, elle avait réagi à retardement. Par bonheur, les deux brutes se turent, et elle enchaîna.
« Ta femme, Feyl, est sous ma protection, comme la reine Aliandre. Quand je n'aurai plus rien à faire avec Sevana, je partirai avec ces deux prisonnières, puis je les aiderai à gagner la destination de leur choix. En attendant, ta présence ici, Aibara, est une grave interférence. Ça, je ne puis l'accepter. De plus, ton inconscience met en danger la vie de ton épouse, de la reine, et la tienne. Dans le camp, il y a des dizaines de milliers d'Aiel. S'ils vous attaquent, et leurs éclaireurs vous localiseront vite si ce n'est pas déjà fait, ils vous réduiront en bouillie. En représailles, ils feront du mal aux deux prisonnières. Sevana, rien ne garantit que je pourrai l'arrêter. Cette femme est cruelle, et 400 de ses matriarches, au moins, savent canaliser le pouvoir. Alors que je suis une Aes Sedai tenue par ce serment, ces sauvages s'autorisent toutes les formes de violence. Pour préserver Feyl et Aliandre, tourne le dos au camp Aiel et galope aussi vite que possible. Avec un peu de chance, les guerriers du désert ne poursuivront pas des fuyards. Pour ta femme et tes hommes, c'est le seul espoir.
Du bon travail. S'il portait ses fruits, Aibara serait obligé de filer.
Si Aliandre est en danger,
commença l'officier du Gueldan. D'une main levée, Perrine lui intima le silence. Miraculeusement, il l'obtint. Oui, comme ça, en une fraction de seconde. L'officier parut mécontent, mais il n'insista pas.
« Tu as vu Feyl ?»
demanda Aibara, la voix tremblante.
« Elle va bien ? Pas de blessure ?»
L'abruti semblait n'avoir pas compris un mot de la tirade de Galina.
« Elle va bien, oui. Et elle est sous ma protection, je le répète, seigneur Perrine. »
Si ce bouseux voulait se donner des airs de noble, Galina était disposée à entrer dans le jeu, pour un court moment.
« Tout comme Aliandre. »
L'officier foudroya Galina du regard, mais il resta muré dans son silence.
« Tu devrais m'écouter, Aibara. Les Shaido te tueront. »«
Approche et regarde ce document, »
dit le jeune seigneur.
« Ne te formalise pas du manque de courtoisie de ce garçon, Aes Sedai, »
souffla Berelaine, en tendant à la sœur une coupe de vin rouge.
« Comme tu peux le comprendre, il est sous tension dans les circonstances présentes. Mais je ne me suis pas présenté. Berelaine, première dame de Mayenne. Je sais, tu peux m'appeler Alize. »
Berelaine sourit comme si elle devinait que c'était un faux nom, mais se résignait à l'accepter. Pas pour la première fois, Galina regretta d'être obligée de négocier avec le fichu garçon, et pas avec un de ces nobles cultivés qui se croyaient assez intelligents et fins pour rouler les Aes Sedai dans la farine. Un abruti comme Aibara, lui, pouvait faire montre d'un entêtement à toute épreuve à cause justement de son ignorance. Mais au sujet des sœurs, il devait quand même avoir appris une ou deux choses. En le regardant de haut, Galina pouvait le convaincre qu'elle était bien plus influente qu'en réalité. Sur sa langue, le vin se révéla avoir de profondes saveurs florales.
« Il est délicieux, »
dit-elle avec une parfaite sincérité. Depuis des semaines, elle n'avait plus bu une gorgée de vin. Tevara se privant de ce plaisir, elle ne l'autoriserait pas à une inférieure. Si elle apprenait que Galina avait découvert plusieurs barriques à Malden, elle réquisitionnerait la piquette et ferait battre sa captive comme plâtre.
« Aes Sedai, »
dit Berelaine.
« Il y a des sœurs dans ce camp. Par exemple, Masuri Sokawa, Séonide Tregan et même Anoura Larissen, ma conseillère. Quand ton entretien avec Perrine sera terminé, tu aimerais leur parler ?»
Avec une désinvolture feinte, Galina releva sa capuche, jusqu'à ce que son visage soit noyé dans les ombres. Très calme, elle but une autre gorgée de vin. Berelaine étant ici, la présence d'Anoura s'expliquait parfaitement. Mais que faisaient dans ce coin les deux autres sœurs? Après la déchéance de Siouan et le triomphe d'Elaïda, elles avaient fui la tour avec une légion de traîtresses. À cause d'un ordre d'Elaïda, ces femmes ne savaient rien au sujet de l'enlèvement du garçon. Pourtant...
« Leur parler, »
répéta Galina.
« Ce qu'elles font de leur vie les regarde. Même remarque pour moi. »
En réalité, elle aurait donné cher pour en savoir plus sur ces femmes, mais pas si ça devait lui valoir d'être démasquée. Un ami du dragon réincarné devait savoir assez précisément ce qu'était une sœur rouge.
« Berelaine, aide-moi à convaincre Aibara. Tes gardes ailés ne pourront rien contre la horde qu'enverront les Shaido, et les lanciers du Gealdan ne feront pas de différence. Pour ça, il faudrait une armée entière. Et encore,
Les Shaido sont innombrables, et ils disposent de centaines de matriarches prêtes à utiliser comme une arme le pouvoir de l'unique.
Je les ai vus à l'œuvre. Dans ce combat, tu pourrais périr, ou être capturé. Si ça arrive, je ne te garantis pas de t'arracher à Sevana quand je partirai.
Berelaine éclata de rire, comme si des milliers de Shaido et des centaines de matriarches étaient un sujet de plaisanterie.
Ne crains pas qu'ils nous trouvent, Aes Sedai. Leur camp est à 3 jours du nôtre, ou peut-être même 4. Et pas très loin d'ici, le terrain devient très accidenté.
3 jours, voire 4. Galina frissonna. Elle avait été trop longue à comprendre. 3 ou 4 jours de voyage bouclés en 1 heure, grâce à un de ces trous dans l'air que générait la moitié masculine du pouvoir. Sans le sentir, elle avait été assez proche d'un flux de Saïdin pour le toucher. Malgré ce choc, elle ne se démonta pas.
Même ainsi, tu dois m'aider à les convaincre de ne pas vous attaquer. Ce serait désastreux pour Perrine, pour Fail et pour vous tous. Au-delà de ça, ma mission est importante. Merelaine, tu as toujours été un soutien essentiel de la tour.
De la pure flagornerie, pour la dirigeante d'une simple cité-état et de quelques lopins de terre. Mais la brosse à reluire marchait aussi bien avec les nains qu'avec les géants.
Aes Sedai. Perrine est très têtue. Je doute qu'il change d'avis. Quand il a une idée en tête, pas moyen de l'en sortir.
Assez bizarrement, la jeune dirigeante eut un sourire mystérieux que n'aurait pas renié une sœur.
Berelaine, peux-tu remettre à plus tard ton bavardage avec cette femme ?
Intervint Aibara. Ce n'était pas une vraie demande. Impatient, le jeune seigneur agita les documents qu'il tenait.
Alise, tu veux bien regarder ?
Là encore, c'était un ordre. Pour qui se prenait ce jeune coq? Traiter ainsi une Aes Sedai? Gagner la table mit un peu de distance entre Galina et Néald, mais ça la rapprocha de l'autre type en veste noire, qui la dévisageait intensément. Par bonheur, il y avait le meuble entre eux. Une barrière précaire, certes, mais qui encouragea Galina à ignorer l'homme et à consulter le document. Ce faisant, elle ne put s'empêcher de froncer les sourcils. C'était un plan de Malden avec l'aqueduc qui amenait en ville l'eau d'un lac situé à quelques lieues de là. On y voyait aussi une esquisse du camp des Shaido. Plus grande surprise encore, des repères semblaient indiquer l'arrivée par vague des clans depuis que les Shaido avaient conquis la ville. La preuve que les hommes d'Aibara observaient le camp depuis assez longtemps. Sur la table, un autre plan montrait exclusivement la ville, mais avec beaucoup plus de détails.
Vous connaissez la taille du camp des Shaido, à ce que je vois. Donc, vous avez compris qu'une mission de sauvetage est impossible, et le resterait même si vous disposiez de centaines de...
Prononcer ce nom lui arrachant la gorge, Galina désigna les 2 hommes en noir.
Les matriarches ne se laisseraient pas faire. Au bout du compte, on dénombrerait les morts par milliers. Et ta femme serait peut-être du lot, Aibara. Je l'ai dit et redit, Fail et Aliandre sont sous ma protection. Quand ma mission sera terminée, je les conduirai en sécurité. Au nom des 3 serments, tu sais bien que je ne mens pas. Ne va pas croire que ton lien avec Randall Thor te protégera si tu mets des bâtons dans les roues à la tour. Je sais très exactement qui tu es. Crois-tu que ta femme me l'aurait caché? Elle me fait confiance. Et si tu veux la sauver, tu dois l'imiter.
L'abruti regarda Galina comme si sa tirade était entrée par une oreille pour ressortir par l'autre. Ses yeux étaient vraiment perturbants.
Où dort-elle? Et les autres femmes qui l'accompagnaient? Montre-moi sur le plan.
Impossible,
lâcha Galina.
Les Gaïshaï passent rarement 2 nuits de suite au même endroit.
Avec ce mensonge, venait de disparaître l'ultime possibilité pour Galina de laisser en vie Fail et les autres. À dire vrai, elle n'avait jamais eu l'intention de les aider, car seule son évasion comptait. Mais les tuer, jusque-là, n'aurait pas été indispensable. À présent, ça coulait de source, pour interdire qu'elle s'évade et puisse dénoncer son énorme mensonge.
« Je la libérerai, »
grogna Aibara.
« Coûte que coûte. »
Galina réfléchit à toute allure. Dissuader Aibara semblait impossible. Mais il devait y avoir moyen de le retarder. Ça, elle devait le faire, au minimum.
Veux-tu au moins différer ton action? Pour ma mission, j'ai encore besoin de quelques jours.
Un délai précis stimulerait peut-être Fail. Avant, ça aurait pu être dangereux. Une menace non exécutée perd tout son impact, et rien ne garantissait que la prisonnière était capable de voler le bâton dans les temps. À présent, prendre le risque s'avérait indispensable.
Si je réussis à partir avec toutes les prisonnières, tu ne seras pas obligé de mourir pour rien. Quelques jours, Aibara.
Défoulant sa frustration, le jeune idiot tapa du poing sur la table.
Tu auras ton délai,
rugit-il.
Peut-être même un peu plus, si.
Aïbara ne finit pas sa phrase et riva ses étranges yeux dans ceux de Galina.
Mais ce sera peut-être moins, car je ne peux rien te promettre. Si je m'écoutais, j'attaquerais sur le champ. Alors, ne compte pas que je laisse Fail croupir dans cet enfer, en attendant que les plans d'une Aes Sedai portent leurs fruits. Elle est sous ta protection, dis-tu. Mais qu'est-ce que ça signifie venant d'une Gaishain? Dans ce camp, on voit pas mal d'ivrognes. Parfois, même les sentinelles sont ivres. Les matriarches boivent aussi.
Le changement abrupt de sujet faillit déstabiliser Galina.
Oui, mais uniquement de l'eau. Donc n'espère pas les trouver en train de cuver.
La stricte vérité. Quand Galina répondait à une question, ça n'arrivait pas souvent. Cela dit, les matriarches étaient l'exception qui confirmait la règle. Chez les Shaido, les beuveries se révélaient incessantes. De chaque raid, ils rapportaient de quoi saouler un régiment. Dans le camp, les distilleries produisaient un affreux torboyau. Chaque fois que les matriarches en détruisaient une, deux autres poussaient à la place. Mais ces informations auraient encouragé Aïbara.
Cela dit, j'ai accompagné d'autres armées, et on y boit plutôt plus que dans celle-là. Je donnerai une estimation de 100 poivreaux pour 10 000 hommes. En quoi ça peut t'aider? Allons, repose-toi sur moi. Quelques jours, une semaine, peut-être deux.
Aïbara baissa les yeux sur le plan et serra le poing droit, mais il parla calmement.
Les Shaido vont-ils souvent en ville?
Galina posa sa coupe sur la table et se redressa de toute sa hauteur. Si difficile qu'il fût de soutenir ce regard jaune, elle y parvint.
Il est temps que tu me montres un peu de respect, Aïbara. Je suis une Aes Sedai, pas une fille de salle.
Les Shaido vont-ils souvent en ville?
Répéta Perrine, exactement sur le même ton. Galina se retint d'exploser.
Non! Ils ont volé tout ce qui méritait de l'être, et même des choses sans valeur.
L'Aes Sedai regretta ces mots dès qu'ils eurent franchi ses lèvres. En temps normal, il n'aurait pas tiré à conséquence, mais avec des hommes capables de faire des trous dans l'air.
Cela dit, ne va pas comprendre qu'ils n'y vont jamais. En moyenne, quelques-uns y entrent chaque jour. Par lot de 30 environ, et parfois plus. Des groupes de 2 ou 3.
Le bouseux serait-il assez futé pour comprendre ce que ça voulait dire? Méfiante, Galina lui mâcha le travail.
Impossible de les neutraliser tous. Certains fileront prévenir le camp.
Aïbara hocha la tête.
Quand tu parleras à Fail, transmets-lui ce message. Le jour où elle verra du brouillard sur les crêtes et entendra des loups hurler au soleil, ses compagnes et elle devront gagner la forteresse de Dame Keiren, dans le nord de la ville, et ne plus en sortir. Dis-lui aussi que je l'aime et que je viendrai la sauver.
Des loups? Ce miteux était-il fou? Comment pouvait-il savoir que des loups... Les yeux jaunes sondant son âme, Galina ne fut plus très sûre de vouloir connaître la réponse.
« Je le lui dirai »,
mentit-elle. Aïbara comptait peut-être utiliser les hommes en veste noire pour récupérer sa femme et rien de plus. Mais pourquoi avait-il attendu si longtemps dans ce cas? Dans ses yeux jaunes se cachaient des secrets que Galina aurait aimé connaître. Ce garçon, qui voulait-il contacter? Sûrement pas Sevana. Pour ça, l'Aes Sedai aurait loué la lumière, si elle ne s'était pas détournée de ses niaiseries depuis longtemps. Qui arriverait bientôt? Galina avait entendu parler d'un homme, mais ça pouvait être un roi accompagné de son armée. Ou Altor en personne. Celui-là, elle espérait ne jamais le revoir. La fausse promesse de l'Aes Sedai sembla rassurer son interlocuteur, qui se détendit visiblement.
La difficulté avec un casse-tête de forgeron,
soupira-t-il, en tapotant de l'index le plan de Malden.
C'est de mettre en place la pièce clé. Voilà qui est fait, ou qui le sera bientôt.
Aes Sedai, resteras-tu pour le dîner?
Demanda Berelaine.
C'est bientôt l'heure.
Dehors, la nuit tombait. En robe de laine sombre, une servante aux cheveux blancs en chignon vint allumer les lampes.
Me promets-tu au moins une semaine?
Demanda Galina. Aïbara secoua la tête.
Dans ce cas, chaque heure compte, donc je dois partir.
En réalité, l'Aes Sedai n'avait jamais envisagé de rester pour socialiser. À contre-cœur, elle formula son ultime demande.
Un de tes hommes pourrait-il me raccompagner jusqu'au camp? Enfin, le plus près possible.
Fais-le, Neald,
ordonna Aïbara.
Et au moins, essaie d'être courtois.
Osez dire ça, ce mufle. Galina inspira à fond et remonta sa capuche.
Je veux que tu me frappes au visage, assez fort pour laisser un bleu.
Enfin, l'Aes Sedai était parvenue à ébranler son interlocuteur. Les grands yeux jaunes s'écarquillant, Aïbara glissa les pouces dans sa ceinture, histoire de bloquer ses mains.
« Il n'en est pas question, »
lâcha-t-il. l'officier du Géaldan en resta bouche bée, et la servante n'en croyait pas ses oreilles. Pétrifiée, elle manqua ficher le feu à sa robe.
« Je l'exige !»
insista Galina. Tout ce qui pourrait amadouer Tevara était bon à prendre.
« Fais-le !»« Je doute qu'il obtempère !»
fit Berylaine en approchant.
« C'est un vrai gentilhomme. Tu permets que je m'y colle ?»
Galina acquiesça. C'était absurde, bien entendu, parce qu'une femme ne parviendrait pas à laisser... Un instant, tout devint noir autour de la Sedai. Puis sa vision revint, mais elle tituba. Un goût de sang dans la bouche, elle porta une main à sa joue et fit la grimace.
« J'y suis allé trop fort ?»
demanda Berylaine, faussement navrée.
« Non. »
grogna Galina, luttant pour rester impassible. En possession de son pouvoir, elle aurait arraché la tête de cette garce. Mais si elle avait pu canaliser, rien de tout ça ne serait arrivé.
« L'autre joue maintenant. Après, que quelqu'un aille chercher mon cheval. »
Avec le Mourandien, Galina traversa la forêt jusqu'à un endroit où de grands arbres gisaient sur le sol, les branches et le tronc lacérés. Pour elle, utiliser ce trou dans l'air serait une épreuve. Pourtant, quand un trait vertical se matérialisa puis s'élargit pour devenir un portail, elle ne songea pas à la souillure du Saïdin, mais talonna son cheval et traversa promptement, sans penser à rien, sinon à Tevara. En découvrant qu'elle était sur le versant d'une colline au-dessus du camp, Galina cria de joie. Puis elle tenta de rattraper le soleil couchant, mais perdit cette course. Comme de juste, elle ne s'était pas trompée. Tevara n'accepta aucune excuse. En revanche, les bleus la perturbèrent. Par principe, elle ne laissait jamais de marque au visage. La suite égala tous les cauchemars de Galina, et elle dura plus longtemps qu'un mauvais rêve moyen. Alors qu'elle criait de douleur, Aes Sedai oublia jusqu'à son désir éperdu de s'approprier la copie du bâton des serments. Elle se força à y repenser. Récupérer le bâton, tuer Fail et ses amis, puis reprendre sa liberté.